au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur Judaïque FM.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. Donc, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Dominique Schnapper. Dominique Schnapper est sociologue, directrice d'études à l'École des études en sciences sociales. Elle a été membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010, présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, présidente du Conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sollicitée par le ministre Jean-Michel Blanquer récemment pour la présidence du futur Conseil des stages de la laïcité.
Il existe.
Il existe, oui, c'est vrai. Alors, on lui doit plus d'une trentaine d'ouvrages que je ne vais pas énumérer ici parce que notre émission est quand même courte. Simplement, l'ouvrage qu'elle nous présente aujourd'hui s'inscrit au croisement de ses réflexions sur la démocratie et sur le fait juif, notamment par exemple, La communauté des citoyens, publié en 2003, L'esprit démocratique des lois, en 2014. Et donc, le livre d'aujourd'hui, publié en 2018, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs, se situe au carrefour de ces réflexions. C'est à la fois une vaste synthèse historique qui mobilise plusieurs pays et veut finalement aborder, je vous cite Dominique Schnapper, des configurations politiques révélatrices de la sociologie des juifs dans le monde démocratique. Je vous propose donc de visiter ces différentes configurations qui vont de l'émancipation à l'intégration, à la qualification de la situation actuelle, vous nous direz comment, et avec un regard renouvelé sur la tradition, ce dont nous parlerons aussi à la fin de notre rencontre. Mais avant d'exécuter ce plan, je voudrais revenir sur le contexte de l'ouvrage, c'est-à-dire vous utilisez la métaphore du pont pour évoquer un passage entre plusieurs domaines de la connaissance. Et donc, pouvez-vous revenir sur le contexte scientifique de votre réflexion, au fond, pourquoi ce livre, à quels autres livres il parle?
Oui, j'ai toujours été frappée du fait qu'il y a toute une tradition historique de très grande qualité des historiens juifs sur l'histoire des juifs, soit l'histoire ancienne, bien entendu, soit l'histoire moderne. Et en même temps, les connaissances accumulées par les historiens juifs restent dans ce que les gens dans les entreprises appellent un silo, c'est-à-dire reste réservé aux spécialistes, lu par les spécialistes, enseigné aux juifs, par des juifs, et que la dimension juive de l'histoire nationale d'abord, et de l'histoire de la démocratie, est très peu prise en compte par les spécialistes, soit de l'histoire nationale, soit de tous ceux qui réfléchissent sur la démocratie. Or, l'exemple juif me paraît un exemple particulièrement intéressant si on veut à la fois réfléchir, ce que j'ai essayé de faire dans ma vie intellectuelle, sur la constitution des nations et l'avènement de la démocratie, les deux étant évidemment étroitement liés puisque la démocratie est née dans le cadre national. Et l'exemple juif est exemplaire d'une part... Enfin, par toute une série de dimensions, la première étant l'hostilité à laquelle les Juifs étaient confrontés au moment de l'émancipation et la vigueur des principes révolutionnaires qui ont fait que la citoyenneté a été étendue même aux Juifs, qui paraissaient une population extrême par les conditions sociales d'existence et par l'hostilité que les Juifs avaient suscité dans ce monde chrétien. Et donc c'était une façon de mettre à l'épreuve les manquements, les limites, les vertus de la démocratie à partir de l'exemple juif.
Bien, alors votre livre pourrait être découpé en trois étapes, disons. Donc, on va peut-être parcourir déjà la première étape. Vous parlez déjà de l'émancipation et vous reprenez l'histoire, effectivement, des décrets de l'émancipation en expliquant comment les Juifs sont passés d'une famille, c'est votre expression, à une religion en France. Comment ils se sont constitués finalement comme religion au pays de la laïcité, ce qui est quand même un paradoxe.
Oui, en 1791, on n'était pas dans le pays de la laïcité.
Bien sûr,
on était dans un pays pétri par la tradition catholique et où l'Église catholique était avec le roi à la source de la légitimité générale. Oui, l'émancipation montre à la fois la force du principe révolutionnaire qui fait que le principe de la citoyenneté a été étendu aux Juifs, même si c'est avec difficulté. Alors, je réutilise les travaux des historiens, les connaissances ne sont pas originales, mais je les mets dans cette perspective où on voit que ceux qu'on appelait les Bordelais, c'est-à-dire les descendants des réfugiés espagnols, qui étaient des gens convenables, quoi. Ils étaient riches, ils étaient cultivés, et ils bénéficiaient du prestige de la culture espagnole. Ça n'a pas été très difficile de leur donner la citoyenneté. Mais la masse de la population juive à l'époque était dans l'est de la France. C'était une population extrêmement modeste, même misérable d'une certaine façon, à laquelle beaucoup de droits n'étaient pas reconnus. Et donc étendre la citoyenneté même à eux, ça prouvait la force de la vigueur révolutionnaire et en même temps le décalage entre la volonté de la citoyenneté d'un côté et la réalité des perceptions sociales qui faisaient qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain penser que c'était des citoyens égaux aux autres. Ils étaient vraiment à la fois trop différents, trop misérables, trop peu chrétiens, je dirais. Enfin, donc on voit la force du mouvement révolutionnaire et on voit ce que ça a fondamentalement changé, puisque malgré tout, pour la première fois dans l'histoire des siècles qui précédaient, les Juifs ont eu l'égalité de statut civil et juridique, ce qui était une nouveauté absolue.
Alors peut-être qu'on pourrait revenir un tout petit peu en arrière. Quelle était l'organisation politique des Juifs avant l'émancipation ?
Alors avant l'émancipation, les communautés juives, alors là il faut mettre un C majuscule puisqu'elles disposaient du pouvoir politique et judiciaire. Il y avait des tribunaux et il y avait le pouvoir qui négociait au nom des communautés le droit de résidence et les taxes qui étaient payées aux souverains. Et donc les communautés formaient une entité tout à la fois religieuse, si on veut, en tout cas rituelle, avec ses organismes propres, avec son pouvoir, puisque les chefs de la communauté avaient un pouvoir coercitif sur les membres de la communauté et imposaient les impôts. Les impôts, c'est toujours le signe du pouvoir politique, et le tribunal. Alors, cette organisation de la communauté avait été un petit peu ébranlée au cours du XVIIIe, puisqu'on voit déjà certains juifs qui n'étaient pas satisfaits des décisions du Beit Din faire appel aux tribunaux civils, mais c'était un début d'ébranlement et fondamentalement c'était un pouvoir de nature politique. Évidemment, l'émancipation imposait la fin du pouvoir politique et la transformation des populations juives en citoyens et non pas en nations au sens de l'époque. Et c'était un grand bouleversement dans l'histoire des communautés juives qui étaient évidemment marginales et méprisées, mais en même temps qui disposaient d'une certaine indépendance.
Bien, et justement, puisque l'émancipation est un processus, comme vous le dites, il y a cette fameuse dissertation qui est proposée en 1785 à la Société royale des arts de Metz et qui pose la question suivante. Est-il moyen de rendre plus utiles les Juifs et également plus heureux ? Bon, alors quelles sont les réponses et les arguments ? Parce que finalement, c'est peut-être là que se tient un petit peu déjà, ou que se préparent déjà les décrets sur l'émancipation, y compris pour les Juifs.
Oui, bien sûr, mais ce concours a une forte valeur réelle d'abord et symbolique ensuite. C'est-à-dire que l'abbé Grégoire formule ce qui est au fondement de toute la réflexion sur les relations entre les diverses populations, en disant oui, bien sûr, ils ont tous ces défauts, et ils ne pouvaient pas dire autrement, puisqu'il fallait faire passer le message essentiel. Oui, bien sûr, ils ont tous les défauts, mais ces défauts, ils les ont, non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de la condition sociale qu'on leur a faite. Et là, on a le renversement de la conception des diversités culturelles Il est vrai que c'est le renversement des Lumières dont nous sommes d'une certaine façon les héritiers, puisque nous ne pensons plus les différences en dehors des conditions sociales qui les ont faites apparaître. Et dans le cas des Juifs, il est évident que c'est dans la tradition, dans la logique et dans les principes des Lumières, mais ça pose que les caractéristiques sont dues. Les caractéristiques qui apparaissaient comme des défauts, les usuriers, la non-loyauté, la solidarité contre les autres, la non-ouverture aux autres, enfin, tout ce qui était reconnu dans l'opinion publique comme étant les défauts des Juifs, qui sont les responsables, dit l'abbé Grégoire, c'est nous, par la condition que nous leur avons faite.
Oui, mais en même temps, du côté des Juifs, qu'est-ce qui se dit? Parce que leur rapport au pouvoir, vous citez Yerushalmi et vous dites que ce rapport au pouvoir et à la politique est finalement vertical.
Oui, Yerushalmi a mis le doigt dessus avec beaucoup de talent, mais on savait que les communautés juives étaient protégées plutôt par le pouvoir. Le pouvoir vertical, c'est le pouvoir.
Bien sûr.
Et en but à l'hostilité de leurs voisins.
Voilà.
Et qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Puisqu'ils avaient le droit de résidence, il y avait une certaine protection qui était assurée par le pouvoir, alors que leurs voisins cédaient à la force des préjugés. Donc c'était une grande tradition que les responsables des communautés restent en relation. Assure la protection de la communauté par ses négociations avec le pouvoir et en même temps que le pouvoir, d'une certaine façon, sur un statut inférieur, mais protégeait ce statut inférieur.
Oui, et on voit dans les écrits révolutionnaires que vous citez que les promoteurs des décrets d'émancipation n'étaient pas forcément philosémites.
Non, mais c'est-à-dire il faut les lire aussi à la lumière de l'opinion publique. C'est-à-dire que dans les arguments qu'ils donnent, ils disent oui, vous avez raison. Mais c'est pour faire passer l'argument essentiel qui est la citoyenneté ne doit pas s'arrêter aux qualités ou aux défauts, enfin aux caractéristiques des populations. Et donc ils cèdent devant l'opinion publique et ils décrivent des populations qui, effectivement, n'étaient pas ouvertes aux autres, puisque les autres voulaient les martyriser. Donc, ce qu'on appelait les défauts des Juifs à l'époque tenait essentiellement à la condition sociale. Mais pour faire passer l'idée fondamentale que la citoyenneté ne dépend pas des caractéristiques, qui était au cœur du projet, ils rendaient hommage, oui, en effet, ils sont ceci, ils sont cela, qui était l'opinion publique. Et l'abbé Grégoire aussi. Mais c'était d'une certaine façon, enfin peut-être partageait-il ce sentiment, je ne suis pas là pour en juger, je n'ai pas les moyens de le faire, mais il faut penser qu'il pouvait y avoir dans certains cas un effet rhétorique.
Oui, bien sûr, mais alors du côté des Juifs,
alors, du côté
comment
des Juifs,
réagissent-ils à cette offre de citoyenneté?
Il y a une toute petite minorité qui sont les responsables, qui accueillent l'égalité de statut. Et j'ai été très frappée par le Sanhédrin réuni par Napoléon pour voir combien ils ont rapidement compris les grands principes du nouveau régime. C'était une véritable révolution. Mais dans les communautés eux-mêmes, il y a eu une réaction, disons, mélangée, puisqu'on perdait, il fallait réinterpréter le judaïsme en des termes nouveaux, faire que le Beit Din n'est une valeur que religieuse et non plus une valeur civile, que les chefs des communautés n'aient plus de pouvoir sur les membres des communautés, et que ça remettait en question tout le mode de vie hérité avec sa dimension d'infériorité, mais aussi le caractère protecteur qu'avaient les communautés sur leurs membres. Et il a bien fallu, on parle toujours du succès de l'intégration de la fin du siècle, du 19e siècle, à partir du Second Empire, mais les premières générations ont été beaucoup plus ambiguës, beaucoup plus bousculées. Et comme toujours, quand dans les communautés, dans les populations très bousculées par les événements, il y a les deux réactions, ceux qui, avec enthousiasme, embrassent la nouvelle culture. Et la première génération, on a connu énormément de baptêmes vers le catholicisme en France, vers le protestantisme en Allemagne. Il suffit de rappeler le cas de Heine. Et en même temps, de repli sur une tradition de plus en plus affirmée et décontextualisée avec la nouvelle société. C'est toujours le cas quand on remet en cause le mode de vie, soit on accepte volontiers et on va très loin, c'est-à-dire on quitte le judaïsme, et il y a des exemples célèbres dont les... et soit, au contraire, on se replie sur son identité parce qu'on n'a pas la force, le courage, la possibilité de la réinterpréter dans ce qui était devenu un nouveau monde.
Oui, et alors vous faites des comparaisons avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Comment ce processus d'émancipation se passe là, en quelques mots, parce qu'il va falloir que...
Il faut aller lire le livre. Mais oui, le processus est différent parce que les pays sont différents. Alors, il y a la Révolution française, et donc c'est pris dans le grand mouvement révolutionnaire. Il y a le retour en arrière de Napoléon, mais malgré tout, il n'a pas remis en question la citoyenneté des Juifs. La complète égalité civile date quand même de 1846, avec la fin du serment judaïque qui était prêté devant les tribunaux. Bon, donc c'est le mouvement révolutionnaire qui affirme, et d'ailleurs quand les troupes napoléoniennes avancent à travers l'Europe, les Juifs sont émancipés en Italie, en Allemagne, et puis avec la fin de Napoléon, les pays reviennent en arrière. Alors le processus est différent parce que en Angleterre, les Juifs font partie, comme les catholiques, des minorités, et ils obtiennent progressivement l'égalité des droits. Dès le 18e, certains Juifs riches et célèbres font partie de la Royal Academy, sont déjà insérés dans la vie sociale. Et au cours du 19e, il y a des étapes successives. Vers 1860, un Rothschild est élu à la Chambre des communes, ou des Lords, je ne sais plus. On trouvera dans le livre, mais il ne peut pas siéger parce qu'il refuse de prêter serment sur la Bible. Oxford et Cambridge n'ont pas eu d'étudiants ou d'enseignants juifs avant la fin du siècle. Mais jusque dans les années 30, il y a eu beaucoup moins d'antisémitisme que dans les pays du continent, parce que les Juifs s'inscrivaient dans le libéralisme anglais et dans la valeur accordée à la vie commerciale dans laquelle ils réussissaient bien. Et alors le cas allemand est évidemment le plus fascinant et le plus tragique, puisque nous savons la fin de l'histoire, mais à l'époque on ne savait pas. C'est-à-dire que dans aucun pays, la culture juive n'a été aussi riche, elle n'a autant fait partie de la culture allemande. Et dans aucun pays, ils n'ont été aussi peu intégrés dans la vie collective, et ils n'ont suscité un antisémitisme aussi fort dont on a vu les expressions au XXe siècle, mais qui ont précédé ce XXe siècle. Et le décalage entre ce qu'en tant que sociologue j'appelle la très forte intégration culturelle et la très faible intégration structurelle est, disons, fascinante dans le cas allemand.
Oui, alors donc si on revient sur ce mot intégration et sur le distinguo que vous faites effectivement entre les deux types d'intégration et comment finalement ça se déroule, y compris aux États-Unis, dont vous donnez une image un petit peu plus mitigée, mais bon, on va y revenir.
Bah, les États-Unis, c'est pas moi qui donne l'image, hein. c'est les historiens que j'ai lus et qui montrent à la fois qu'une réussite objective exceptionnelle et d'autres qui n'a pas empêché des formes d'antisémitisme, mais en même temps les États-Unis bénéficiaient de divers facteurs qui rendait l'antisémitisme moins fort que les pays européens. D'abord, la volonté de faire un État, de rompre avec le poids des pays européens. Ça faisait partie du projet. Une très forte inscription dans la Bible et donc dans l'Ancien Testament, et ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Et d'autre part, le fait qu'il y avait aussi des catholiques, le mouvement antipapiste était très fort. Il y avait des Noirs qui cristallisaient beaucoup des sentiments de xénophobie et d'agressivité, les Indiens. Et donc, les Juifs n'étaient qu'une partie des populations envers lesquelles il y avait des préjugés et des manifestations hostiles. Et donc, au total, dans cette démocratie, c'est là où, sans doute, où les Juifs connaissent aujourd'hui une situation particulièrement favorable. Et ça a longtemps été le cas. Mais il ne faut pas sous-estimer la force de ces mouvements antisémites, mais qui s'inscrivaient dans des mouvements d'hostilité à travers aussi d'autres populations, ce qui les relativisait relativement.
Oui, alors vous rapportez le fameux slogan « acculturation sans assimilation oui. » où vous racontez également la règle tacite du 5 p.m., du 5 heures du soir, à partir duquel, finalement, ce sont les communautés qui se reconstituent à partir de 5 heures du soir et l'esprit public
oui,
disparaît.
Oui, ça a été très longtemps.
C'est un fondement.
Ça a été très longtemps le cas. Les Juifs américains ressemblaient à des Américains sur tous les plans. Ils travaillaient avec eux jusqu'à 5 heures. Mais ensuite, quand il s'agissait de la vie sociale ou de la vie familiale, ils revenaient dans leur communauté. Mais c'était, si je puis dire, moins grave que dans les pays européens, parce que d'une certaine façon, toute l'Amérique est faite de communautés diverses. Mmh. Et donc, les Juifs avaient la possibilité de réinterpréter leur judéité, soit en termes religieux, soit en termes de communautés. De même qu'il y a les Polonais, les Polono-Américains, les Italo-Américains, ben, il y avait les Juifs américains. C'était moins particulier que dans les pays européens, qui sont plus centralisés du point de vue culturel.
Oui, mais alors, du côté de l'Allemagne, par exemple, si on fait juste un petit bond en arrière, les Juifs allemands décrivaient volontiers l'Allemagne même comme mère patrie de tous les Juifs. Vous citez une expression, je ne sais plus de qui. Et finalement, vous dites que finalement, les Juifs avaient pensé une symbiose, avaient rêvé d'une symbiose qui, dans la réalité, n'existait pas.
La symbiose était vue par les Juifs, elle n'était pas vue par les Allemands.
Oui.
Parce qu'effectivement, ils étaient objectivement très proches des Allemands du même milieu social. Ils avaient les mêmes pratiques culturelles. Ils voyaient dans la culture allemande une rencontre privilégiée avec le génie juif. Et ils parlaient du génie juif et du génie allemand qui s'étaient retrouvés miraculeusement dans la culture allemande et qui faisaient que l'Allemagne était la patrie culturelle de tous les Juifs, quelle que fût leur nationalité.
Resté, oui.
Et évidemment, aujourd'hui, les historiens ont montré comment cette perception était une perception des Juifs, une réalité des Juifs, et pas du tout des Allemands. Et évidemment, ils ont des arguments très forts, sans même penser à la Shoah, mais il y a eu un parti politique antisémite dont le programme était contre les Juifs, pour l'expulsion des Juifs. Il y a eu des manifestations d'antisémitisme avant le XXe siècle, d'une violence qui nous paraît aujourd'hui incroyable et à côté de laquelle l'antisémitisme français apparaissait comme un petit frère.
D'accord. Donc il y avait un espèce de rêve juif de la démocratie. Est-ce qu'on peut dire ça?
Il y avait un rêve juif, en tout cas, de la culture allemande.
Oui, de la culture allemande.
De la culture allemande, plutôt que la démocratie, parce que malgré tout, le Kaiser était un démocrate relatif.
Oui.
Mais certainement, il y avait il y avait un rêve de la nation,
par exemple,
de la nation et de la culture allemande comme une rencontre privilégiée avec la culture juive. Ce qui peut-être était vrai du point de vue culturel, mais dont l'expérience historique a montré qu'elle n'était pas vraie du point de vue politique.
Oui, et c'est peut-être là que se croise votre réflexion sur les modes de construction de la nation comme ethnique ou civique. Quel peut être le positionnement des Juifs dans ce mode de construction de la nation?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le sort des Juifs est directement lié à la force du principe civique et de la transcendance qu'il oppose aux passions ethniques.
Absolument.
Le sort des Juifs est directement lié à la force du principe civique. Or, à l'Allemagne de la fin du 19e, on était dans une très forte ethnicité. Et le principe civique était très faible, d'où ce grand antisémitisme. Et c'est dans la mesure où le principe civique s'affaiblit que le sort des Juifs peut devenir est remis en danger.
Alors ça, c'est très important, là, ce que vous nous expliquez sur le principe civique. Comment le mesure-t-on? Parce que peut-être que ça peut nous donner des indications sur les temps présents.
Ben, le principe civique, c'est le principe de la citoyenneté, c'est-à-dire l'organisation de la société démocratique sur le principe de la transcendance de toutes les réalités religieuses, régionales, ethniques qu'on peut imaginer par l'affirmation et les pratiques de l'égalité civile, juridique et politique de tous les citoyens. Et quand on s'en tient là, et si on s'y tenait parfaitement, ni l'antisémitisme ni le racisme n'existeraient. Et les moments de racisme et d'antisémitisme, et particulièrement d'antisémitisme, sont des moments où cette idée de transcendance par la citoyenneté des réalités ethniques et religieuses est si faible que la société revient à ses passions hostiles au particularisme.
Alors c'est pour ça que dans votre dernière partie de votre ouvrage, vous mettez en titre « Ethnicité et démocratie ». Alors vous opposez les deux, il me semble-t-il.
Non, je les oppose.
Quel est le sens du « et » ?
Non, je ne les oppose pas. C'est-à-dire qu'aucune nation n'est purement civique. C'est impossible à penser, c'est une abstraction, c'est juridique. La société n'est pas faite, vous êtes sociologue comme moi, la société n'est pas faite de sujets de droit. Donc la société démocratique se caractérise à la fois par ses dimensions ethniques. Nous partageons, pour faire une nation démocratique, nous partageons une culture, des institutions, des manières d'être ensemble qui sont spécifiques et qu'on peut qualifier d'ethniques. Mais ce qui caractérise la société démocratique, c'est que ces réalités ethniques qui existent et qui ne peuvent pas ne pas exister sont tout de même transcendées dans l'espace public par les principes de la citoyenneté. Et c'est quand cette transcendance s'affaiblit que l'espace public laisse passer toutes les passions, et les réalités d'abord et les passions ensuite de l'ethnicité, que le sort des Juifs devient fragile, disons. Et à la fin du 19e, c'est bien ce à quoi on assiste avec le pan-germanisme allemand et la définition de l'Allemagne par le Blut und Boden. Évidemment, dans le Blut und Boden, les Juifs n'en font pas partie dans cette conception.
Tout le mouvement folkiste.
Tout le mouvement folkiste, etc. Ouais. Et c'est là où on est dans le moment où la transcendance par la citoyenneté n'est plus assez forte pour compenser ces passions de type ethnique. Mais il ne faut pas opposer la nation ethnique à la nation civique, mais voir que la nation civique comporte plusieurs dimensions ethniques, mais que dans l'espace public, ces dimensions ethniques sont transcendées par le principe civique. Et si elles ne le sont pas, nous sombrons dans la barbarie et en tout cas dans l'antisémitisme.
Oui, oui, mais du côté juif, on assiste aussi à une ethnicisation... à une ethnicisation de l'identité des Juifs aussi.
Il y a des risques.
Après la
toujours.
Shoah, après la création de l'État d'Israël, vous décrivez aussi une croissance du sentiment religieux. Vous décrivez aussi un processus d'ethnicisation qui affecte aussi les populations juives. Comment vous la voyez en tant que sociologue, ce processus.
L'ethnicisation, les Juifs n'en sont pas indemnes comme les autres, c'est-à-dire que toute fidélité à des formes particulières de culture, de rituels ou d'histoire est parfaitement compatible dans la société démocratique à partir du moment où elle n'empêche pas les relations avec les autres et les relations avec l'espace public neutralisé. Et il y a toujours le risque, chez des populations qui ont été longtemps méprisées et persécutées, d'un retour à une ethnicisation qui n'est pas compatible avec cet espace public commun à tous.
Oui. Et par rapport à ça, comment vous situez aussi votre... ce positionnement par rapport à la démocratie extrême que vous avez est illimité, hein, que vous avez dénoncé dans d'autres livres, enfin dénoncé oui. ou analysé.
J'ai essayé de l'analyser.
D'analyser avec un œil un petit peu critique.
Absolument. Je ne prétends pas à une objectivité absolue, bien entendu, mais j'ai essayé de l'analyser. C'est-à-dire que un des risques de la démocratie, c'est effectivement de ne pas connaître de limites, et donc ne connaissant pas de limites. De passer de la liberté à la licence et de l'égalité à l'indistinction. Or, je crois que l'indistinction est un péché contre la nature humaine et que l'idée de nation purement civique oui. fait partie de ces idées qui risquent de trahir la démocratie comme étant trop démocrate, d'une certaine façon.
Oui, alors là, c'est là qu'on voit Zygmunt Bauman, qui, a une analyse extrêmement froide de ce processus de démocratie, puisqu'au fond, il dit que finalement, la Shoah serait un produit de la modernité. Ce n'était pas parce qu'ils étaient différents, mais parce qu'ils ne l'étaient plus, qu'ils étaient victimes d'antisémitisme et de racisme. Au fond, le juif assimilé était dans le viseur.
Alors là, vous touchez à un grand débat que nous n'allons pas résoudre en quelques minutes. Voilà. C'est le rapport justement entre la Shoah et la modernité et tous ceux qui pensent qu'il y a un rapport nécessaire entre la modernité et la Shoah. Et je pense que c'est une manière anhistorique de penser le problème. La Shoah aurait pu ne pas avoir lieu, mais elle a eu lieu.
Bien
donc, et bien entendu, il faut en tenir compte. Mais je pense que c'est un péché contre la raison historique de penser qu'elle était nécessaire. Ce qui est vrai, c'est que le juif tout à fait différent d'avant la modernité était méprisé et maltraité, mais... on savait ce qu'il était. Et qu'à partir du moment où le juif s'est mis à ressembler aux autres, ça a perturbé les perceptions et qu'il restait l'idée d'une différence radicale qui était l'héritage des siècles chrétiens, mais on ne la voyait plus. Et du coup, comme toujours les fantasmes, et, au lieu d'en tirer la conséquence que c'était d'ordre culturel et religieux, mais que ce n'était pas d'ordre essentiel, le fantasme s'est retourné et a dit qu'ils étaient d'autant plus dangereux qu'on ne les reconnaissait pas. Alors ça, c'est vrai que c'est un phénomène d'ailleurs qu'on voit pour d'autres populations. C'est que le différent, le vrai différent est plus acceptable que le différent qui ne l'est plus.
Bon. Voilà.
Et qu'il ne suffisait évidemment pas de proclamer la citoyenneté de tous les Juifs pour que des préjugés issus de siècles de rapports avec la chrétienté puissent s'évanouir d'un coup. Et donc, il y a eu ce décalage entre la modernité proclamée et la réalité des réactions hostiles de la société. Et suivant les pays et suivant les moments, ce décalage a pu donner lieu au mouvement que nous avons connu. Mais les grands moments de l'antisémitisme, c'est la fin du 19e, c'est-à-dire c'est le moment du nationalisme ethnique délirant des pays européens. C'est les années 30, c'est la suite de la crise économique, la montée de l'hitlérisme, les conséquences. C'est-à-dire que c'est des moments où la démocratie est particulièrement faible.
Bien. Et donc, dans votre dernier chapitre, votre livre traite de la tradition. Donc, vous avez abordé dans le deuxième chapitre la force de la tradition et décrit, bon, surtout pour un public non juif, cette force de la tradition.
Oui, c'est sans originalité.
Juifs, ils reconnaissent.
Mais vous vous souvenez qu'il fallait mettre le problème juif dans le. Dans la réflexion générale, puisque je trouve qu'elle n'était pas assez. Donc ce chapitre sur la force de la tradition, que les Juifs doivent trouver tout à fait banal, a fait que beaucoup de gens découvrent des choses qui pour nous sont évidentes.
Oui. Et vous développez l'idée du débat public autour de l'étude, vous parlez de civilisation juive, vous montrez comment les polémiques, les disputes, les débats font partie de l'élaboration et de la transmission de la loi. puisqu'il n'y a aucune autorité centrale dans le monde juif. Et finalement, vous en arrivez peut-être à deux hypothèses qui sont peut-être un petit peu contraires. Vous réexaminez Veblen qui dit que ce n'est pas la culture juive qui a donné à des élites juives les moyens de leur réussite, mais le fait de l'avoir quittée. Et d'autre part...
Oui, mais de l'avoir connue avant.
Voilà. Mais vous dites d'autre part qu'il y a une affinité élective entre cette démocratie, cette tradition juive. Alors, est-ce que ces deux hypothèses ne sont pas un peu contradictoires ?
Ah ben, je ne crois pas, parce que Veblen dit ils étaient formés à la réflexion. Et en plus, il a fallu qu'ils la mettent en perspective. Et donc, c'est l'esprit critique, par définition, qui consiste à se détacher de ce qui est déjà accepté et de remettre en cause. Et il y a eu un livre qui s'appelait « Le siècle juif », d'un collègue américain, qui explique que le XXe siècle est devenu le siècle juif, puisque c'est un siècle qui est formé sur la valeur de la connaissance et sur les échanges généralisés. Et que la tradition juive, par l'accent qu'elle met sur l'étude et par le rôle d'intermédiaire que l'histoire a donné aux Juifs, qui n'était pas donné dans la culture juive, mais qui est le produit d'une tradition historique, fait qu'ils étaient adaptés à ce siècle. On a tout de même quelques réticences à accepter que le XXe siècle soit le siècle juif, mais
oui.
Ça fait un titre,
oui. Et puis, on n'a pas parler du décret Crémieux et de la suite du décret Crémieux et de la manière dont les Juifs, dans ce cadre-là, se sont positionnés, y compris après, effectivement, dans les mouvements d'autonomie.
Il faut lire Le chat du rabbin qui montre, très bien,
absolument.
Qui montre très bien comment le décret Crémieux qui envoyait les rabbins modernisés de France se retrouvait face aux traditions communautaires. On retrouve la même situation, c'est-à-dire ceux qui se sont repliés sur la tradition locale et qui ont eu de la peine à accepter ce changement de statut. Et puis, la majorité d'entre eux qui a adopté la culture française et la citoyenneté française, et ce qui leur a permis un retour en 1962 qui a été plus facile que les réfugiés, par exemple, d'Europe centrale dans les années 30. Ils étaient devenus français, ils avaient intériorisé la majorité des valeurs, disons, de la République française.
Oui, et c'est peut-être en tirant leçon de cet épisode et d'autres encore que vous parlez finalement de l'hypothèse d'une modernité normative. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est que cette modernité normative qui se nourrirait à la fois de la tradition et aussi de l'esprit démocratique ?
Ben je prends deux exemples de la réinterprétation du judaïsme, qui sont deux exemples que j'admire, celui d'Emmanuel Levinas et celui de Stefan Moses, qui montrent comment ce qui est au cœur de la tradition juive peut être réinterprété dans les termes de la pensée de la modernité, dans l'esprit critique, et on peut penser qu'il y a une affinité élective dans cette remise en cause continue d'ordre historique et rabbinal avec la réflexion continue qui est celui de l'esprit critique de l'esprit des Lumières.
Bien, bon, bah écoutez, merci Dominique Schnapper pour cet aperçu de votre livre qui est à la fois, je pense, un livre de sociologie mais aussi de socio-histoire finalement qui fait aussi des ponts entre différentes disciplines et différentes façons de considérer les configurations du fait juif dans divers univers politiques. La semaine prochaine, Antoine Spire recevra François Ratier pour son livre Heidegger, Messie antisémite, ce que révèlent les cahiers noirs aux éditions du Bordelot. Merci Dominique Schnapper. À
Merci
bientôt.
À vous.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur Judaïque FM.